L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Voilà ce que nous disait le Concile Vatican II il y a déjà un certain temps. On voit donc que si l'homme est la seule créature voulue pour elle-même, la conséquence est que toute la création est faite en vue de l'homme. Et c'est très intéressant de voir que on peut voir la recherche scientifique du XXe siècle, en gros, et même au début du XXIe, qui conduit finalement à cette conclusion, si on le lit avec cette grille. La première chose, c'est l'univers a eu un commencement. L'univers a eu un commencement. La théorie du Big Bang a été exprimée en 1931 et elle a été très décriée parce que qui dit commencement veut dire par conséquence création. C'est pourquoi de nombreux scientifiques du RSS ou pendant le régime nazi ont été persécutés car ils ne pouvaient pas accepter cela. Et cette théorie du Big Bang a été confirmée en 1964 par la découverte d'un rayonnement fossile, écho de ce Big Bang. Donc l'univers a eu un commencement. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ne s'est pas fait d'un coup comme c'est maintenant. L'univers a connu des étapes pour arriver au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et si le moindre détail avait été différent, le monde n'existerait pas. Par exemple, la fameuse constante G, la fameuse constante de gravitation. Si elle avait été différente d'une seule lointaine décimale, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Car si elle avait été plus forte, eh bien, le monde se serait écrasé sur lui-même. Et si elle avait été plus faible, il y aurait un nuage de poussière, mais ni galaxie, ni étoile, ni planète. Alors, la probabilité que tous ces détails, parce que je parlais de la constante G, mais il y en a un certain nombre d'autres, et toutes doivent être, c'est le réglage fin, comme on l'appelle. Alors, la probabilité que tous ces détails soient dus au hasard est quasi nulle. Même constatation pour l'apparition de la vie. Il y a un saut vertigineux pour passer de l'inerte au vivant. Ce passage de l'inerte au vivant s'est produit il y a environ 3 milliards et demi d'années, soit 1 milliard d'années après l'apparition de la Terre. Pour cela, il a fallu la coordination simultanée de très nombreux facteurs, tous extrêmement improbables. Par exemple, pour qu'il y ait le vivant, il faut des protéines. Et on a essayé, je ne me souviens plus du chiffre, mais la probabilité que le hasard fasse une protéine alors qu'il y en a 80 est quasiment nulle. Alors, multiplié par 80, on voit ce que ça donne. Alors, donc on peut en conclure qu'il n'y a pas de hasard pour l'apparition du vivant. Et si nous sommes là, c'est bien parce que la vie est apparue. Alors on peut faire le lien avec les récits bibliques. Dans le second récit de la création, on nous parle d'un jardin. D'un jardin dans lequel Dieu a placé l'homme et la femme. Et bien, ce jardin, ne serait-ce pas l'univers? On voit que Dieu, on peut penser que Dieu a créé l'univers pour que nous puissions exister. Et la même chose pour la vie. Je m'arrête là pour le regard scientifique, car le Concile avait vraiment souligné l'homme est la seule créature que Dieu ait voulue pour elle-même. C'est vraiment beau. Chacun peut se dire, un amour a voulu ma vie. Un amour a voulu ma vie. Si j'existe, c'est parce que Dieu m'a voulu, moi, pour vivre avec moi une histoire d'amour. Malheureusement, nous le savons, l'homme n'a pas répondu à l'amour de Dieu, et ça, c'est le péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Dieu aurait pu nous laisser à notre triste sort. Mais son amour était si grand qu'il a voulu nous sauver. Et pour ce faire, il a plongé dans notre humanité. C'est le mystère de l'incarnation qui se rend visible en cette fête de Noël. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Verbe dont l'Évangile nous disait, par lui, tout a été fait. Eh bien, l'incarnation, c'est que celui par qui tout a été fait est devenu une créature. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. On pouvait le voir aussi à travers l'annonce des bergers hier. Les bergers disaient, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Donc un sauveur. Oui, Jésus est vraiment le sauveur. Dès le début, on sait que sa mission, c'est de nous sauver. On ne sait pas comment cela va se faire. Mais on sait qu'il est venu pour nous sauver. Et puis, c'est le Christ, le Seigneur. C'est le Christ, le Messie. C'était un homme qui était attendu comme Messie, un descendant de David. C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu. Dans la Bible, le mot Seigneur est réservé à Dieu. Il y a un seul Seigneur. À travers ces deux mots, nous est dit dès le début que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors, aussi quand on pense à un sauveur qui est annoncé comme un grand chef d'armée, quelqu'un de puissant, on pourrait avoir peur. Mais nous pouvons regarder, c'est un nouveau-né. Écoutons ce que saint Bernard disait sur cette merveille. « Pourquoi crains-tu, homme? Pourquoi trembles-tu en face du Seigneur parce qu'il vient? Il vient non pas pour juger la terre, mais pour la sauver. Ne t'enfuis pas, ne crains rien. Il ne vient pas avec des armes. Et s'il te cherche, ce n'est pas pour te punir. » Mais pour te sauver, regarde, c'est un enfant. Il s'est fait tout petit. Et tu trembles encore de frayeur? Il ne vient pas pour te perdre, mais te sauver, te libérer et non pas t'enchaîner. Déjà, il entre en lutte avec tes ennemis. Déjà, il foule du pied la nuque des orgueilleux et des puissants, car il est force et sagesse de Dieu. Alors, en cette fête de Noël, nous pouvons faire nôtre cette exclamation de saint Paul : « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ».